les Actes, chapitre 8, c'est page 1070 des Bibles bleues. Ce chapitre 8, des versets 1 à 25. Ce jour-là, une grande persécution s'abattit sur l'église qui était à Jérusalem. Tous, excepté les apôtres, se dispersèrent en Judée et en Samarie. Mais des hommes pieux ensevelirent Étienne et firent sur lui de grandes lamentations. Saul, lui, ravageait l'église. Il pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Là où il passait, ceux qui avaient été dispersés annonçaient la parole comme une bonne nouvelle. Philippe, qui était descendu dans la ville de Samarie, y proclama le Christ. Les foules, d'un commun accord, s'attachaient à ce que disait Philippe, en apprenant et en voyant les signes qu'il produisait. Car des esprits impurs sortaient de beaucoup en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et d'infirmes furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Un nommé Simon, qui se trouvait déjà auparavant dans la ville, y exerçait la magie. Il stupéfiait le peuple de Samarie et se disait quelqu'un de grand. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'attachaient à lui et disaient « Cet homme-là est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. » Ils s'attachaient à lui parce qu'il les avait longtemps stupéfiés par sa magie. Mais quand ils eurent cru Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu et du nom de Jésus-Christ, ils reçurent le baptême, hommes et femmes. Simon lui-même devint croyant et reçut le baptême. Il était assidu auprès de Philippe et voyait avec stupéfaction les signes et les grands miracles qui se produisaient. Quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, une fois descendus chez eux, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint, car celui-ci n'était encore tombé sur aucun d'eux. Ils avaient seulement reçu le baptême pour le nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux, et ils reçurent l'Esprit Saint. Lorsque Simon vit que l'Esprit Saint était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur apporta de l'argent et dit « Donnez-moi aussi cette autorité, que celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent se perde avec toi, puisque tu as pensé acquérir le don de Dieu à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Reviens donc de ta pensée mauvaise, et prie le Seigneur pour que l'intention de ton cœur te soit pardonnée, si cela est possible. Car je vois que tu es en proie à l'amertume du fiel et au lien de l'injustice. » Simon répondit, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Après avoir rendu témoignage et dit la parole du Seigneur, ils retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans de nombreux villages des Samaritains.
Bonsoir. On poursuit notre série dans le livre des Actes. Matthieu a commencé dimanche dernier avec le témoignage d'Étienne. Dans les romans policiers, une des sciences qu'il faut maîtriser, c'est le suspense, mais aussi dévoiler au bon moment le tournant dans la résolution d'une enquête. Et Agatha Christie, c'est probablement une des personnes les plus célèbres pour les romans policiers. Elle était maître en la matière avec ses héros, Hercule Poirot, Miss Marple. Et dans un de ses livres, par exemple, juste pour en prendre un exemple, Un témoin muet, un livre qu'elle a publié en 1937, Miss Arundel a déjà échappé une première fois à la mort lors d'une chute dans les escaliers. La balle de Bob, le chien, l'a fait glisser. Mais ça se reproduit une deuxième fois, et cette fois-ci, elle décède. Alors la question qu'Hercule Poirot pose, mais est-ce qu'il s'agit d'un accident ou est-ce qu'il s'agit d'un meurtre? Un témoin dit avoir vu le tueur, mais il a seulement vu les initiales sur le peignoir, T.A. et ce témoin va lui-même être assassiné. Alors comment y aura-t-il résolution? On est dans la tension justement qu'Agatha Christie fait monter. Et le tournant, c'est au moment où Hercule Poirot voit le chien aboyer devant le miroir et il réalise qu'il fallait lire les initiales à l'envers. Il fallait lire A.T., les initiales A.T., puisque c'était à travers le miroir que le témoin a vu le meurtrier. Le tueur est démasqué. Il y a des tournants. Alors, c'est vrai que c'est fin, c'est... et il fallait y penser. Agatha Christie invente, elle, des tournants inattendus dans ses récits. Luc, en fait, a probablement eu de la peine au départ. C'est seulement avec le recul et les faits qu'il doit relater qu'il constate qu'il y a eu un tournant. Et on va voir qu'il y a plusieurs difficultés dans le texte à résoudre. Il n'invente pas, mais il y a des difficultés bien réelles devant lesquelles il nous place. Il n'invente pas, c'est pas une invention, mais il y a bel et bien un tournant auquel on assiste. Et on va tout simplement reprendre ce mot en trois temps. À quoi ressemble le tournant dans la progression de l'Évangile, dans les versets 1 à 4? À quoi ressemble le tournant dans la région de la Samarie? À quoi ressemble le tournant dans la vie d'un individu? D'abord, à quoi ressemble le tournant dans la progression de l'Évangile? Je relis simplement ces premiers versets. « Ce jour-là, une grande persécution, après le meurtre d'Étienne, s'abattit sur l'église qui était à Jérusalem. Tous, excepté les apôtres, se dispersèrent en Judée et en Samarie. Mais des hommes pieux ensevelirent Étienne et firent sur lui de grandes lamentations. Saul, lui, ravageait l'église. Il pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Là où il passait, ceux qui avaient été dispersés annonçaient la parole comme une bonne nouvelle. » La description qui est faite dans ces premiers versets, c'est celle d'une persécution, d'une grande persécution, d'une violente persécution. Comment réagir quand on entend parler de persécution? Pour prendre un exemple aujourd'hui, comment réagir lorsqu'on sait par exemple que le pasteur Youssef Nadarkhani est condamné à mort? Il attend l'exécution de cette sentence en Iran. Alors qu'il est accusé d'apostasie, par la suite les motifs de son inculpation ont été changés. Comment est-ce qu'on réagit face à des persécutions qui sont évidentes, qui sont claires? Est-ce qu'on devrait trouver ça normal, acceptable? Bien sûr que non. La colère, l'indignation, c'est une réaction là tout à fait légitime et normale. Tout en étant légitime et normal, est-ce qu'il est possible d'avoir une autre perspective sur la situation? Dans le cas de ce pasteur, on peut s'étonner de tout ce qui est dit dans les médias au sujet de l'attachement à une foi, de son attachement, de son témoignage. Mais je suggère aussi d'avoir une autre perspective, et je vous propose que c'est ce que Luc veut pour ce récit qu'il relate. Au chapitre précédent, on a découvert le premier martyr chrétien, Étienne, et on voit que cette lapidation d'Étienne, elle galvanise en quelque sorte ceux qui veulent s'en prendre aux chrétiens, en particulier Saul, veut se débarrasser des disciples de Jésus. Et on a ce premier témoin, un certain Saul, qui était là et qui devient un des acteurs principaux de cette persécution. Et les termes choisis pour le décrire sont forts. Saul ravageait l'église, il pénétrait dans les maisons, on arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. C'est déjà grave de s'en prendre à des personnes pour des questions de foi. Je pense que chacun ici le reconnaîtrait. C'est encore plus grave de ne faire aucune distinction. Homme ou femme, on va s'en prendre à eux. Mais là où vous pensez être en sécurité, chez vous, c'est là qu'on vient vous chercher, on vous traque comme un animal pour vous emprisonner, pour demander votre sentence à mort. Et c'est à Jérusalem que toute cette persécution commence, là où l'Église commençait à grandir, après la Pentecôte. des milliers de personnes, 3000 personnes en tout cas au moment de la Pentecôte, s'étaient converties, et donc il y avait cet enthousiasme. Et comment faire avec une telle persécution, une telle violence? Eh bien, la conséquence, c'est la dispersion en Judée, en Samarie. Et on peut se demander, alors qu'on parle de dispersion, si Luc veut en fait nous dire il y a une certaine lâcheté dans les réactions des croyants. Est-ce que c'est de la lâcheté, la fuite? D'une part, on peut parler de la première réaction, celle des apôtres, qui est de rester à Jérusalem. Ils sont probablement restés cachés, mais un peu comme une église souterraine, mais ils sont restés eux. L'autre réaction qu'on voit, c'est des hommes pieux qui ont le courage d'aller chercher le corps d'Étienne pour l'ensevelir, et du coup qui s'associent à lui. Ça, c'est pas de la lâcheté non plus. Et la dispersion, alors. Notez ce qu'il est dit à leur sujet. Là où ils passaient, ceux qui avaient été dispersés annonçaient la parole comme une bonne nouvelle. Chrétiens n'abandonnent pas leur message sous prétexte qu'ils ont été persécutés. Au contraire, ils en parlent d'autant plus là où ils sont. Et avec les chrétiens qui se dispersent, c'est l'évangile aussi qui se propage. Et on est en train de voir se réaliser quelque chose d'assez inattendu. Vous vous souvenez de cette trame que Matthieu a rappelée dimanche dernier pour comprendre le livre des Actes. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Parole qu'on trouve en Acte 1, verset 8, et qui nous aide à comprendre ce qui se passe. Et ce qui se passe est assez surprenant. Cette dispersion, cette propagation de l'évangile, cette progression, elle ne vient pas d'une stratégie des apôtres qui se disent « Ces paroles de Jésus, on devrait les appliquer, réfléchir à la manière de propager cette bonne nouvelle en Samarie. » Elle vient par la persécution. Et Luc ne veut pas nuancer la gravité de la faute, il nous dit la violence, l'injustice qui est commise, et dans le même temps, il veut nous aider à reconnaître la souveraineté de Dieu. Le tournant inattendu, c'est qu'on voit se propager cet évangile en Samarie. Avec le recul, on peut reconnaître qu'un tournant a été pris. Un exemple plus récent, Dans l'histoire, dans ce commentaire, John Stott mentionne la Chine. En 1949, il y avait 637 missionnaires de la mission intérieure en Chine qui ont été expulsés de ce pays à cause la question de propager cet évangile là-bas. Et tout le monde voyait cela comme une catastrophe à l'époque. Comme quelque chose de désastreux pour l'Église, comment est-ce que les chrétiens en Chine vont pouvoir gérer leur départ sous une persécution forte, une pression exercée sur eux? Comment est-ce qu'ils vont réagir? Et en fait, le constat dans les décennies qui ont suivi, c'est que l'Église s'est multipliée par 30, 40 au niveau des nombres. Difficile d'avoir une estimation, mais les chiffres avancés, c'est quelques 100 millions de chrétiens aujourd'hui en Chine. Un tournant inattendu qui se produit ici alors que les premiers chrétiens sont persécutés. Et une des questions qu'on peut se poser, si on est chrétien ce soir, c'est: est-ce qu'il y a des situations dans ma vie, si je suis croyant, que j'ai de la peine à comprendre? Des situations peut-être même de souffrance, de pression exercée sur moi, au travail ou dans mon entourage. J'ai de la peine à imaginer comment cela pourrait permettre le progrès de l'évangile. Et pourtant, ce texte nous invite à considérer une autre perspective sur la situation. Une des choses qu'on a mentionnées aussi, c'est dans les médias et dans les livres qui ont été édités ces derniers temps sur la persécution des chrétiens. De plus en plus de personnes en parlent, et alors qu'ils ne sont même pas chrétiens eux-mêmes. Et c'est l'occasion peut-être dans une conversation de poser la question à quelqu'un. Est-ce qu'il y a des choses dans ta vie ou dans ma vie pour lesquelles je serais prêt, tu serais prêt à donner ta vie? Est-ce qu'il y a encore des choses ici dans notre société en France pour lesquelles on serait prêt à mourir sans vouloir provoquer la mort d'autres, hein, comme un kamikaze qui voudrait faire mourir d'autres personnes, mais est-ce qu'il y a des choses suffisamment importantes pour lesquelles je serais prêt à mourir? Ce serait un sujet de conversation à suggérer, peut-être. À quoi ressemble le tournant de la progression de l'Évangile? Il ressemble à un tournant inattendu. On passe ensuite à quoi ressemble le tournant dans la région de la Samarie. La dispersion, elle provoque cette progression de l'Évangile. Et Samarie est au bénéfice de cette bonne nouvelle. On l'a déjà vu avec Étienne, il y a une multiplication de témoins. Et un des éléments qu'on peut dire déjà, c'est que ce ne sont plus simplement les apôtres qui rendent témoignage, quelques personnes qui sont en vue, mais c'est des personnes comme Étienne, Philippe, et on l'a même vu, chaque croyant, tout le monde en parle. Et Luc met en évidence la trajectoire de Philippe. On a déjà entendu parler de lui dans le livre des Actes. Il a déjà servi pour les plus démunis, en particulier pour les à Jérusalem. Il a été nommé comme un des diacres. Il a déjà une expérience de service. Il a le témoignage d'une véritable piété. Et c'est lui qui descend en Samarie pour y proclamer le Christ. Difficile de savoir exactement si c'est la ville de Samarie ou la région de la Samarie, mais les deux en fait vont être concernés. Alors Luc veut nous donner les premiers échos, et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il nous met en parallèle avec un autre homme, Simon, et on reconnaît l'influence de ces deux personnes, Philippe et Simon. Quelques traits de similitude, je vous lis par rapport à Philippe ce qui est dit au verset 6. Les foules d'un commun accord s'attachaient à ce que disait Philippe, en apprenant et en voyant les signes qu'il produisait. Quant à Simon, au verset 10, on entend de lui, tous depuis le plus petit jusqu'au plus grand s'attachaient à lui et disaient, cet homme-là est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. Ils s'attachaient à lui parce qu'il les avait longtemps stupéfiés par sa magie. Pour tous les deux, on réalise qu'on a affaire à des choses extraordinaires, des miracles qui sont produits. Pour tous les deux, on constate l'intérêt des foules. Les foules s'amassent pour les voir, pour les rencontrer. Il y a aussi des différences. Et la différence de taille entre les deux, c'est ce vers quoi ou vers qui ces miracles pointent. De Simon, on entend dire qu'il stupéfiait le peuple de Samarie en se disant quelqu'un de grand. La magie de Simon, elle les amène à dire « Cet homme-là est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. » Autrement dit, c'est vers lui que tout le monde tournait le regard. À cause de la pratique de sa magie, on s'attache à lui. C'est lui cette puissance, c'est lui ce puissant. Quant à Philippe, déjà Luc ne parle pas en termes de magie, mais il parle en termes de signes qui nous invitent à réfléchir à leur signification. Il y a un message, au-delà des miracles qu'il produit, il y a un message. Et on le voit au verset 12, quand ils eurent cru Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas son nom que Philippe élève, c'est celui de Jésus. Ce n'est pas lui-même qui s'élève, c'est Jésus qui est roi, qui règne. C'est lui qui est digne de régner. Et les signes qu'il produit doivent renvoyer vers ce roi-là, vers ce règne-là. Le baptême qu'ils reçoivent, c'est un symbole de leur union à Jésus dans sa mort et sa résurrection. Dernière chose qu'on peut dire dans ce parallèle entre Philippe et Simon, c'est que Simon lui-même se retrouve dans la position des gens qui le suivaient partout. Il est dit, Simon lui-même devint croyant, reçut le baptême, il était assidu auprès de Philippe et voyait avec stupéfaction les signes et les grands miracles qui se produisaient. Se retrouve dans la peau de ceux qui étaient attachés à lui vis-à-vis de Philippe. Quant aux habitants de Samarie, on peut décrire d'une manière générale qu'ils étaient remplis de joie. C'est la joie qui les caractérise. C'est à ça que ressemble le tournant en Samarie. Par la suite, on découvre quelque chose qui peut surprendre un peu. Je lis au verset 14, « Quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu, ils renvoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, une fois descendus chez eux, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint, car celui-ci n'était encore tombé sur aucun d'eux. Ils avaient seulement reçu le baptême pour le nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent l'Esprit Saint. » Ce qu'on lit ici soulève des questions, et j'en vois en tout cas deux. La première, c'est qu'on a relevé un parallèle entre Philippe et Simon, deux messages distinctifs et concurrents en quelque sorte. Est-ce qu'il faut considérer ici les apôtres qui viennent de Jérusalem comme une concurrence à ce qui s'est fait par Philippe? Une autre question qu'on peut se poser, c'est ce qui ressemble à une double étape. Ils croient en Jésus, se font baptiser, et par la suite les apôtres viennent, et c'est la venue de l'Esprit. Certains voient dans cette double étape une double expérience qui devrait se retrouver dans la vie de chaque croyant. C'est-à-dire qu'un croyant, à un moment donné, croit en Jésus, et à un moment donné, par la suite, il a l'expérience de la venue de l'Esprit. On va commencer avec la première question. Est-ce qu'il faut voir dans la venue des apôtres, Pierre et Jean, une sorte de concurrence entre Philippe et leur ministère? Il y avait bien et bien concurrence entre Simon et Philippe, mais on ne retrouve pas ces mêmes traces dans la description de leur venue. Au contraire, il y a plutôt des signes d'une complémentarité. Ils viennent compléter en quelque sorte le travail de Philippe. Il n'y a pas de déni de ce qu'il a fait ou il ne regarde pas de haut ce qu'il a fait. On verra d'autres cas dans le livre des Actes, par exemple en Actes 18-19 avec Apollos et Paul. Ça arrive régulièrement d'avoir complémentarité dans les ministères. C'est donc ce qui semble se passer ici. Mais comment comprendre ce qui ressemble à cette double étape, la foi en Jésus et seulement par la suite la venue de l'Esprit? Cette question, elle est indirectement liée à la première chose qu'on a dit au sujet de cette venue en Samarie. C'est lié à ce tournant inattendu d'un évangile qui se propage en Samarie. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire pour Pierre et Jean d'aller là-bas? Dans sa manière de décrire les événements, on peut relever une expression que Luc utilise au verset 14 et qu'on retrouve ailleurs dans son livre. Quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Accueilli la parole de Dieu. Ça, c'est une expression qu'il utilise, par exemple, il l'a déjà utilisé dans Acte 2, après la Pentecôte, lorsque 3000 personnes ont accepté le message, c'est de cette façon qu'il parle de cela. Il va l'utiliser dans le chapitre 10 et 11, en parlant de la conversion de Corneille. Dans ces trois moments, Corneille, c'est une étape importante aussi, puisqu'il s'agit d'un officier romain, un non-juif, qui va croire en Jésus. On peut relever dans ces trois moments, que ce soit la Pentecôte, que ce soit ici Samarie, ou avec Corneille, qu'il y a pour les trois une manifestation particulière de la venue de l'Esprit. Alors pour la Pentecôte, on peut relever ces flammes de feu, ce souffle, ces diverses langues qui étaient parlées. Dans notre texte, il est difficile de savoir comment cette venue de l'Esprit a été caractérisée, mais en tout cas, c'est évident pour eux qu'ils n'avaient pas encore reçu cet Esprit et que c'est lorsque Pierre et Jean ont prié pour eux qu'ils l'ont reçu. Il y a donc une venue visible de cet Esprit. Mais quand on pense à ces trois moments, qu'est-ce qu'il y a de significatif? Eh bien là encore, la trame nous aide à comprendre. Ces paroles de Jésus nous aident à comprendre que c'est un pas important qui est franchi. Et pas un pas qui était facile à envisager. La Samarie, c'est une région ou qui était en tension avec la Judée. Les Juifs voyaient les Samaritains comme des syncrétistes qui avaient été mélangés, qui faisaient des mélanges au niveau de leurs croyances. Les écrits fondamentaux étaient différents, le lieu d'adoration était différent. Des siècles de tension auxquels on voit des allusions dans les évangiles. Ce n'était pas un pas facile à envisager, et pourtant, il fallait l'envisager. Comment être certain que ce pas avait bel et bien été franchi? Eh bien, c'est là l'importance de la venue des apôtres, pour en témoigner. Et une des choses qu'on voit dans le texte suivant, c'est-à-dire le texte qui concerne Corneille, dans Actes 10 et 11, on voit que là aussi c'était problématique. Luc doit consacrer 2 chapitres à expliquer comment, effectivement, un non-juif est devenu croyant. Et qu'est-ce qui va être la marque de ce pas franchi? On lit le témoignage de Pierre quand il doit s'expliquer aux autres apôtres. Il doit leur expliquer pourquoi, comment il sait que ce pas a été franchi. Il dit « Lorsque je me suis mis à parler, l'Esprit Saint est tombé sur eux, comme il était tombé sur nous au commencement. » Alors je me suis souvenu de cette parole du Seigneur qui disait « Jean a baptisé d'eau, mais vous recevrez le baptême dans l'Esprit Saint. » Si donc Dieu leur a fait le même don qu'à nous pour avoir cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour pouvoir m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant « Dieu a donc donné aussi aux non-juifs le changement radical qui mène à la vie. » La venue de l'Esprit, dans le cas de Corneille, et dans notre texte aussi, je vous le suggère, c'est ce qui a été le point marquant pour savoir qu'un pas significatif avait été franchi. Alors ça laisse la question du est-ce que c'est normatif, est-ce que c'est circonstanciel, est-ce qu'il faut considérer que c'est le cas dans la vie de chaque croyant? Là encore, même dans le livre des Actes, on voit plutôt qu'il faut les voir comme un seul moment. C'est par l'esprit que ce changement se produit dans la vie d'un individu. Pierre, dans son discours en acte 2, peut dire « Changez radicalement que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés et vous recevrez le don de l'Esprit-Saint. » Il le voit comme une seule et même chose. Et d'autres textes dans le Nouveau Testament rendent témoignage de cela. Celui qui croit, croit grâce à l'Esprit et est habité dès ce moment-là par son Esprit. Une question que ça pose pour nous, ce tournant-là, c'est de se demander s'il y a des pas que nous pouvons envisager en tant qu'Église. Est-ce qu'il y a une telle progression qui peut être envisagée ici, à Paris? Dimanche après dimanche, on fait une annonce pour la sortie, et ce sera le cas normalement tout à l'heure, pour aller le lundi soir faire des questionnaires à côté de la tour Montparnasse, devant la gare. Et je ne pense pas l'avoir dit à Thomas et Wissam, mais la première fois que moi j'ai entendu parler de ce projet d'aller... Alors à l'époque c'était Thomas qui lançait l'idée, mais la première fois que j'en ai entendu parler, je me suis dit, avec la suspicion que les gens ont autour de nous par rapport à des gens qui veulent parler de leur foi, en pensant à sentiments que les gens peuvent avoir d'entrave à leur liberté quand on engage la conversation avec eux, en pensant tout simplement à des personnes qui seraient plutôt de tendance marginale qui viendraient pour ce genre de choses, moi je vois pas toute la pertinence de cette action. Honnêtement, c'est ça qui m'est venu à l'esprit, le premier réflexe. Et ils m'ont démontré le contraire. Ils ont démontré qu'il y avait bel et bien une pertinence. Quelques fois où j'y suis allé, et en particulier il y a 15 jours, on est surpris de pouvoir discuter avec des gens qui ont envie de parler. Alors c'est vrai, il y a tous ceux qui vont prendre un train, qui n'ont pas le temps, qui finissent une longue journée, qui veulent rentrer à la maison et qui ne s'arrêtent pas. Mais pour ceux qui veulent prendre le temps de discuter, on est surpris de voir qu'ils sont assez positifs et heureux de pouvoir parler de ces questions. Et dans une conversation je devais me pincer pour savoir que c'était vrai. Mais il y avait cet homme de la cinquantaine qui était reconnaissant de pouvoir parler de ces choses. Il avait lu la Bible il y a longtemps et il disait c'est vrai que j'aimerais pouvoir échanger davantage des questions et j'aimerais bien pouvoir les partager. Et devinez quel texte il citait dans les conversations qu'il avait. Un des textes qu'il citait, c'était Matthieu 28, 18, 19, 20. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et il cite ça en disant, mais si c'était vrai, si le message que Jésus a annoncé était vrai, on s'attendrait à ce que les chrétiens en parlent. Vous pensez pas? Et moi j'étais là, en ayant douté tellement de fois que d'aller dans la rue, de rencontrer des gens comme ça, soit pertinent. Et il regardait les témoins de Jéhovah avec une certaine admiration, même s'il ne croyait pas à leur message. Et c'est vrai qu'on se sent repris. Alors ça ne veut pas dire forcément que tout le monde est appelé à aller devant la gare Montparnasse le lundi. Mais est-ce qu'il y a des personnes autour de moi que je n'imagine même pas, dont je n'imagine même pas qu'ils pourraient être intéressés par ce message, qu'ils pourraient vouloir discuter? Est-ce qu'il y a un pas inattendu que l'on pourrait franchir, déjà dans un premier temps par la prière, de prier que Dieu ouvre une porte, mais aussi d'être prêt à saisir une opportunité dans une conversation? On arrive au dernier tournant, et là encore une difficulté à saisir, une résolution à comprendre. On parle de ce Simon le magicien et on dit, il est dit de ceci de lui au verset 18, lorsque Simon vit que l'esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur apporta de l'argent et dit, donnez-moi aussi cette autorité, que celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint. Comment comprendre ce qui se passe ici? Il y en a par exemple qui voient dans ce texte et ils ont des éléments à relever pour dire mais qu'il y a ce qu'on appelle la perte du salut qui est en cause là. Simon a cru, il nous a dit qu'il a cru, il s'est fait baptiser et là, avec les termes aussi forts qui sont utilisés par Pierre, on peut les relever, hein, il est question de se perdre, d'avoir ni part ni lot avec Simon. Son cœur n'était pas droit devant Dieu, une invitation claire à se détourner de sa pensée malsaine. Il est en proie à l'amertume, au fiel, au lien de la justice. On peut se demander si finalement il a perdu la foi. Il est perdu. Ça, c'est une manière que certains ont de lire ce passage. Alors, outre le fait que ça irait, à mon avis, en contradiction avec bien les passages qui nous parlent d'un salut qui est accompli par Dieu et dont Dieu est garant, un salut qui ne peut pas se perdre parce qu'il est opéré par Dieu seul, on peut certainement voir d'autres indices et une autre lecture. Moi, je vous suggère, avec d'autres, je ne suis pas seul, heureusement, mais que Simon a certainement gardé certains traits. Ce virage, il n'est pas si évident que ça quand on relève un peu les éléments. Qu'est-ce qui caractérisait la vie de Simon? Un attrait pour le pouvoir, il attirait les gens vers lui, il pratiquait la magie. Et ici, dans cette rencontre avec Pierre et Jean, il veut obtenir leur pouvoir pour avoir cette même autorité. Est-ce qu'il a vraiment changé dans sa manière de voir les choses? Pense pouvoir monnayer la puissance, mais en plus l'utiliser à son avantage. Il est bien dit, c'est vrai, de lui qu'il a cru dans la foulée de Samarie, mais on peut relever que dans le texte, à la différence des Samaritains, dont on sait quel est l'objet de leur foi, Jésus, pour lui il est dit simplement qu'il a cru. Ensuite, on l'a relevé tout à l'heure, mais il se retrouve dans la position de ceux qui vénèrent quelqu'un d'autre. Il suit Philippe partout, il est assidu auprès de Philippe dans cette version-là. Il le suit à la trace comme un fan suit une star. Et pour terminer, comment comprendre sa réaction? Alors que Pierre lui dit, repens-toi et prie. Ne montre pas vraiment les signes de repentance, de tristesse. Au lieu de cela, il leur demande de prier pour lui. Un peu comme s'il voulait se préserver. Ah, il a eu peur, et il a peur, mais sans vraiment réaliser la gravité de l'offense. C'est toujours la puissance et la reconnaissance qui est au cœur de sa quête. Que ce soit en tant que magicien ou au moment où il suit Philippe partout. Et là encore, quand il demande le pouvoir aux apôtres. Et là, on voit de manière indirecte la pertinence d'un ministère complémentaire. Philippe l'a bel et bien baptisé sur sa profession de foi. Il a cru bon de le faire. Et c'est au moment où les apôtres sont venus que certaines choses sont ressorties. Et je vous suggère que ça nous donne un avertissement à un certain réalisme quant à la trajectoire d'une personne qui, en apparence, peut montrer des signes de changement, mais qui, au fond, n'a jamais réellement cru à ce message. Ce Jésus n'a jamais été véritablement le centre, et le tournant n'a pas été pris. L'occasion aussi pour nous de réaliser si, en fait, devenir chrétien, c'est suivre la même trajectoire, mais avec d'autres moyens, la prière, le fait d'être soutenu par d'autres, mais toujours pour obtenir ce que j'ai toujours souhaité, une reconnaissance, obtenir ceci ou cela dans ma vie. Est-ce que ce tournant a bien été pris? Le tournant dont il est question dans les évangiles, c'est celui qui consiste à reconnaître Jésus comme le roi, seul véritable roi, seul qui soit digne de régner. Je vous invite à prier. Notre Père, nous voulons te remercier pour la grâce que tu nous accordes d'être au bénéfice de l'œuvre de ton esprit, et nous reconnaissons notre besoin de lui pour comprendre les Écritures et pour les vivre. Et nous te prions aussi dans notre désir d'être témoin en tant que croyant que tu nous accordes la grâce de saisir les opportunités. Nous prions aussi pour ceux qui ont besoin de ce tournant, que tu révèles la beauté de Jésus pour eux, l'importance de son œuvre, combien il est digne de régner dans leur vie. Nous le prions au nom de Jésus. Amen.
Voilà, on va passer aux annonces. Merci beaucoup, Paul, pour ce message si riche. Vous avez déjà entendu la pub pendant le message. La sortie Montparnasse. Alors, je vais demander à Thomas s'il veut bien venir nous en dire un mot. Il voudrait apporter un petit complément à ce sujet. Pendant que Thomas vient, je voudrais aussi indiquer une annonce qui n'est pas sur l'écran, mais qui est que nous avons la Sainte Cène tout à l'heure. Donc, disons, un quart d'heure après la fin du culte, donc dans à peu près 20 minutes par rapport à maintenant, il y aura donc, nous allons prendre le pain et le vin, en souvenir de ce que Jésus a fait pour nous. Ça se passera ici. Et puis, si vous... Donc ça s'adresse à ceux et celles qui ont connu ce tournant dont Paul nous a parlé, qui ont reconnu en Jésus-Christ leur roi, leur seigneur, et qui veulent confesser cela. Et si ce n'est pas votre cas, ou si pour une autre raison, simplement ce soir, vous ne souhaitez pas prendre la scène, il n'y a pas de problème, vous pouvez aller dans la salle du bas, il y aura la collation qui sera là dès la fin du culte. Voilà Thomas, je te laisse la parole.
Bonsoir. Donc voilà, je suis là pour apporter un petit complément. Les sorties du lundi soir sont donc là, on a eu une très bonne introduction tout à l'heure, pour parler de l'évangile, pour parler de ce que Jésus a fait, de ce que Jésus fait, et de ce que Jésus va continuer à faire. On considère pour notre part que c'est une chose importante, et on avait peut-être, on a essayé de se réformer un peu, parce qu'on avait été, selon nous, trop timide, on n'était pas assez rentre-dedans, si on veut, quoi. Pas assez franc, peut-être, ou pas assez... On ne cherchait pas assez la discussion. Donc, du coup, on a changé les sondages qu'on utilise. Ils sont plus percutants, plus chocs, peut-être plus de remise en question, ce qui n'est pas pour déplaire, qui est même le but. Donc, voilà, on voudrait vous inviter à venir. On n'est pas méchant, normalement. Mais voilà, donc venez, venez en nombre. Voilà, il y a trois systèmes. Il y a le système des sondages, le système de la prière, de l'intercession, et un troisième système, c'est on a deux stands, un stand avec des Bibles, des Évangiles, des Nouveaux Testaments, et un autre stand avec des boissons chaudes. Les personnes peuvent juste venir et on est là pour être là, juste une présence, juste un accueil, une oreille si c'est nécessaire. Si les gens veulent parler de Dieu, tant mieux, on va pas s'en plaindre. Si les gens veulent parler de leur vie, tant mieux, on va pas s'en plaindre. Donc voilà, je vous invite à venir et à vous réjouir avec nous et en tout cas à nous porter dans la prière si le cœur vous en dit. Merci.
Merci Thomas. Donc, vous avez compris, demain, 19h30, rendez-vous ici, et puis à peu près un quart d'heure plus tard, le groupe ira donc devant la gare Montparnasse. Mardi 19h30, le cours Apollos, pour les personnes qui sont inscrites au cours, donc vous connaissez, c'est juste un rappel que le cours Apollos a lieu à 19h30. Mercredi à 19h30, petite parenthèse, vous voyez que la semaine est très chargée. Alors, évidemment, on ne s'attend pas à ce que tout le monde vienne tous les soirs, hein, c'est pas ça l'idée. Mais il y a une palette d'activités et on espère que vous viendrez au moins à quelques-unes d'entre elles. Mercredi, et puis si vous voulez venir à toutes, c'est super aussi. Mercredi 19h30, Horizon Dieu, c'est une introduction à la foi chrétienne. Donc, un petit peu dans le même esprit que la sortie du lundi soir, mais peut-être un stade un peu autre, c'est-à-dire des personnes qui sont déjà dans une démarche de réflexion ou qui ont envie d'en savoir un peu plus sur la foi chrétienne. Et bien, il y a 5 mercredis soirs de suite.